Chapitre 24. Lucie entra dans leur bureau avec l'énergie d'une balle éjectée du canon d'un pistolet. Si essoufflée que Pascal savait qu'elle avait gravi les 6 étages en courant. Les vieilles habitudes avaient la dent dure. Elle balança d'un geste ses vêtements sur sa chaise et vida une petite bouteille d'eau. Puis, elle leva la tête vers son collègue. « Alors ?» Il montra la clé USB fichée dans son unité centrale. « Je termine de copier les vidéos de surveillance. T'as vu toute cette presse en bas ?»« On dirait un camping. Il y a même la BBC et d'autres médias étrangers. »« Je plains Géco. On ne le voit même plus dans son bureau. Qu'est-ce que tu veux leur dire, franchement ?»« La police fait tout ce qui est en son pouvoir pour ce genre de conneries. » Il reprit sa clé USB et se leva. « C'est tout bon. Franck nous attend en salle de crise. » Ils empruntèrent le couloir. « Pour ta boîte Cyberspace, je suis allé sur leur site internet. Ils sont basés à Clamart, société composée d'une 20aine de cracks spécialisés dans l'informatique du secteur médical et visiblement très réputés pour ses compétences. Il y a une page où ils affichent leurs références, dont Cardiotex, l'un des leaders en dispositifs médicaux implantables. » Lucie afficha un air satisfait. « Parfait, je le sens bien. Un de leurs ingénieurs découvre une faille lors des tests poussés du pacemaker Cardiotex et ne la signale dans aucun document. Il n'en parle à personne. Il possède donc la méthode exacte pour exploiter le dysfonctionnement. Ensuite, il trouve une cible en scrutant les fichiers de données en sa possession.
« Notre monsieur G. »
« Oui. D'une manière ou d'une autre, il entre en contact avec lui et le menace. « Si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, je fais exploser votre pacemaker. » Il donne un petit avertissement en augmentant la fréquence cardiaque de sa victime, juste comme ça, en manipulant son téléphone portable. Pascal plissa le nez en signe de dégoût.
« Ce doit être un cauchemar. Tu sens ton cœur s'emballer et tu ne peux rien faire.
Et ça te pousse forcément à obéir. »
Ils arrivèrent à la salle de crise où les attendait Charcot, collé à son téléphone. Il releva les yeux vers sa femme et lui adressa l'un de ses regards de chasseur à l'affût. Elle l'avait mis au courant de ses avancées sur le trajet du retour.
« On a identifié Flowiz, grâce au hashtag, » lâcha-t-il après avoir raccroché. « Un voisin de palier l'a reconnu en allant sur le site et a posté l'identité sur Twitter. »
Lucie sentait que ça lui était pénible de prononcer ces mots d'une époque qui n'était pas la sienne. Il détestait que des réseaux sociaux se mêlent de leurs affaires. Mais il fallait l'admettre, grâce à eux, tout allait beaucoup plus vite.
« Elle s'appelle Florence Viseur. Je viens à l'instant d'envoyer 3 hommes chez elle pour une perquise. En avance, en avance. »
Florence. Lucie observa l'écran où la pauvre fille de profil se rongeait les ongles. Les emballages vides de nourriture s'amoncelaient. Pour s'occuper, ou parce qu'il devenait fou, Bertrand agrandissait un trou dans le pantalon de son bleu de travail, tirant des fils de tissu. Les deux prisonniers ignoraient sans doute l'existence de l'ultimatum et que chacun de leurs gestes, en ce moment même, était décortiqué par plus de 59 000 anonymes, l'équivalent d'une ville de la taille de Lorient. Lucie songea à une pandémie de grippe en train de se répandre dans tout le pays et que plus rien n'était en mesure d'arrêter. Charcot ne tenait plus en place. Les informations rapportées par Lucie l'avaient revigoré. Il avait évoqué la piste de Cyberspace à Géco, qui jonglait entre les informations à communiquer au procureur de la République et les réunions avec les grands pontes.
« J'ai aussi d'autres nouvelles. Il n'y a aucune paluche sur cette seconde lettre, aucune trace biologique qui nous permettrait de lancer des recherches dans les fichiers. L'ange a été extrêmement prudent. »
Il balança un fin dossier sur la table.
« Le rapport du graphologue est dispo. Vous pourrez y jeter un œil. Mais si vous avez du temps à perdre, lisez plutôt un guide du routard. » Ensuite, la puce extraite du cadavre de Bondy est une puce RFID. Pour abréger, ça peut interagir avec ce qu'on appelle des radio-étiquettes, lorsqu'elles sont à proximité. Par exemple, ouvrir une porte magnétique. On peut aussi stocker des informations personnelles. Ça ressemble à de la science-fiction, ce que je vous dis. Mais si vous passez votre main pucée devant le lecteur adéquat, on peut avoir accès aux données qu'elle contient. Par exemple, l'identité.
Et que contenait-elle ? Demanda Robillard.
L'expert a parlé de signatures électroniques complexes et cryptées. Il est incapable de nous dire à quoi ça peut servir.
Ça, c'est de l'expertise. On se demande pourquoi on les paye.
Revenons-en à nos moutons. Les vidéos de surveillance.
Charcot alla se positionner dans le dos de Robillard qui effectuait des manipulations sur un ordinateur afin d'afficher le contenu de sa clé USB. Trois vidéos apparurent sur les différents écrans avec la date affichée en bas. Mardi 7 novembre, 16h40.
Voilà, expliqua Pascal. Ce sont les enregistrements des caméras qui longent le bastion. On verra quiconque approchera du bâtiment dans un rayon de 60 mètres. À part le chantier, il n'y a rien en vis-à-vis. Impossible de se planquer là. Ce n'est qu'un champ de boue. Si l'ange a voulu s'approcher pour agir, c'est forcément par la route.
Les flics scrutèrent les images avec attention. Les puissants éclairages des lampadaires compensaient la pluie et la pénombre. L'interdiction de se garer le long du QG limitait les planques. À 16h46, un couple de civils sortait de l'entrée principale. Une minute plus tard, deux policiers badgeaient au portique de sécurité et disparaissaient.
« Là !»
s'écria Franck, pointant le troisième écran. Monsieur G entrait dans le champ de l'une des caméras par la droite à 16h50. Il n'avait pas de parapluie et était emmitouflé dans son blouson à la fermeture remontée jusqu'au col. Il allait, puis revenait en arrière, indécis, nerveux, scrutant l'heure en permanence.
« Vous voyez quelque chose ?»
demanda Charcot en balayant du regard les écrans.
« Que dalle !»
Nicolas arrivait à 16h57, lui aussi par la droite. Lucie, Franck et Pascal assistèrent à la vive altercation ainsi qu'à l'empoignade qui suivait. Arrivait ensuite la chute de l'individu, son agonie, les mains sur le cœur. Lucie examinait le moindre pixel.
« L'ange vient de déclencher le système à ce moment précis. Il doit être là. »
Le chantier restait une vaste étendue de boue vierge, personne sur la route, ni à droite, ni à gauche. Aucun véhicule de passage. Au premier plan, Nicolas s'agenouillait en criant et gesticulant. Quatre policiers accouraient en provenance de l'accueil. Lucie n'y comprenait rien.
« Il est peut-être dans un angle mort, dans... »«
Les champs des caméras se recoupent, » intervint Robillard. « Le système s'est sans doute déclenché d'une autre façon, ou alors l'ange était beaucoup plus loin, à une centaine de mètres. »«
Non, le directeur a été formel. Aucun de ces appareils n'émet à plus de 30 mètres. »
Ils observèrent encore une dizaine de minutes, puis Charcot s'éloigna vers le bout de la salle, la main au menton. Il se mit à aller et venir comme un lion en cage et sortit d'un bond. Sans un mot, ils dévalèrent les étages, franchirent le sas, l'accueil, les portes sécurisées, les grilles devant le bâtiment, pour se retrouver sous une bruine désagréable et froide, à l'endroit exact où M. G était tombé. Plus loin, une barrière de policiers empêchait la presse d'approcher. Charcot tournait sur lui-même. Il leva alors les yeux au ciel.
« Vous ne voyez rien ?»
Lucie haussa les épaules.
« Si !» « Le bastion. »«
C'est ça. C'est exactement ça. Le 36. L'ange se tenait à l'intérieur. »
Lucie échangea un regard halluciné avec Pascal. Franck ne plaisantait pas. Il ne quittait pas des yeux les centaines de vitres fumées qui s'élevaient en un rempart de verre. Derrière, sans doute, des visages qui les observaient.
« Il n'y a pas d'autre solution. » S'il n'était pas dans le champ des caméras, et si ce que tu dis au sujet de la distance est vrai, alors il se trouvait dans le bâtiment, derrière n'importe laquelle de ses vitres. Il a déclenché son système et il a regardé l'homme mourir. Aux premières loges.
Robillard se lissa les cheveux en arrière jusqu'à brider ses yeux. Lucie peinait à y croire. L'un des leurs, un loup dans la bergerie. Ils étaient plus de 2000 à l'intérieur. Un flic ? Un fournisseur ? Un employé de l'équipe de nettoyage ? Un chargé de maintenance? Quelqu'un venu déposer une fausse plainte à l'accueil? Était-il derrière une vitre?
Malgré l'évidence, Lucie n'arrivait pas à se défaire de l'idée que l'ange avait un rapport avec la société Cyberspace. L'un de leurs experts se trouvait-il dans leurs locaux au moment du drame? La sonnerie du téléphone de Robillard la sortit de ses pensées. Il alla s'abriter à l'accueil, décrocha, eut une brève conversation et fit de grands signes à ses collègues qui le rejoignirent en courant.
C'était le technicien de Nanterre. L'un des critères liés au crime de la forêt de Bondy a matché dans le Salvac.
Charcot sentit une poussée de sang dans ses veines.
Quel critère ?
L'acide sur le visage et dans les cavités oculaires. Les os défoncés pour empêcher l'identification. La correspondance s'est faite avec un crime vieux de 3 ans qui a eu lieu du côté de Mency, dans l'Essonne.